Louis Albran a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral, nous retrouvons Louis Albran. Bonjour Louis.
Bonjour, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de Louis des Ambrois de Névache, un homme du 19e siècle, qui est un haut alpin célèbre, puisqu'il a fait sa carrière au plus haut niveau de l'État, en Italie, dans le royaume de Piémont-Sardaigne, à l'époque, à la grande époque de l'unité italienne, notamment de Cavour et du roi d'Italie. En effet, entre 1848 et 1861, Turin est le centre d'un mouvement, on peut dire, militaire et politique, inspiré par les principes de la Révolution française, d'une nation identitaire forte, égalitaire, et la France devient un allié précieux et inspiré avec Napoléon III pour aider à cette unité italienne. Nous sommes là 13 siècles après la chute de l'Empire romain d'Occident et on rêve, avec Mazzini, etc., d'une péninsule unie, une seule langue, une seule religion, des Alpes à la Sicile. Donc les protagonistes principaux de cette aventure sont les rois Charles Albert, son fils Victor Emmanuel II, et, je l'ai dit, les ministres Cavour, ainsi que le théoricien Mazzini, qui par ses livres a préparé cette unité, un peu comme les philosophes des Lumières ont préparé la Révolution française. Il y a bien sûr aussi le fougueux général niçois Garibaldi. Et c'est là où vient s'intégrer à cette équipe Louis des Ambrois de Névache. Tous ces grands personnages vont être responsables d'un grand changement d'époque en unifiant les États de la péninsule qui, auparavant, se détestaient cordialement. Des Ambrois de Névache est donc ministre de Charles Albert, puis de son fils Victor Emmanuel, qui sont fascinés par cet homme de dossier, de travail, ce paysan, on peut dire, de Briançonnais, qui s'est instruit et qui va les aider beaucoup dans cette mission de l'unité italienne. Garibaldi, lui, est un homme militaire. Il naît à Nice, il y a encore une plaque sur sa maison près du port, et il veut, avec la permission du roi de Savoie, participer à cette action. Louis des Ambrois de Névache est trop honnête, trop intelligent, trop montagnard, on peut dire, aux yeux de certains, notamment Mazzini. Le roi Victor Emmanuel représente le concept de liberté et d'unité, mais il garde un rôle de souverain au-dessus du peuple et du Parlement. Il a été proclamé roi d'Italie le 17 mars 1861 par la grâce de Dieu et de la nation. Cela affirme l'importance de la souveraineté populaire du droit humain par rapport au droit divin. Des Ambrois de Névache donnent lui l'impression d'appartenir à un autre monde, à une autre époque. En effet, l'origine de sa famille, en haut Val de Suse, dans la région de Oulx, remonte au seigneur Ponce de Bardonnèche autour de l'an 1000. À l'époque des Escartons, en 1282, Boniface de Bardonnèche devient vassal du dauphin Jean et obtient le droit de seigneurie de Névache. À cette époque, les grandes familles de nos hautes vallées alpines entretiennent de bons rapports les unes avec les autres, fortifiées par de fréquents mariages et autres parenté. Mais dès le XVe siècle, beaucoup de ces familles renoncent à leur propriété pour garder leur indépendance. Ainsi, les deux Ambrois font le choix de résister. Ils se fixent à Oultz vers la fin du XVIIe siècle, quand Louis des Ambrois de Névache, né dans cette ville le 3 octobre 1807, sa famille, malgré les titres importants et prestigieux de noblesse, a très peu de revenus. La mère née Thérèse Pratt est descendante d'une famille bourgeoise de La Salle, près de Briançon. Elle a deux enfants de son mariage avec Louis-Victor des Ambrois, qui lui est colonel dans l'armée de Savoie. Le premier de ses enfants est Louis-Michel et le deuxième, Victor-François, qui mourra dans sa petite enfance, tristement suivi par Thérèse Pratt des Ambrois. Des Ambrois de Névache se sont installés au début du XVIIIe siècle, donc au plan d'Oux, dans la maison, ultime demeure du fameux capitaine Lacazette. On l'a vu dans l'émission précédente, qui a été tué dans sa propre maison par les soldats de l'Estiguière en 1590. Quelques années après cet achat, un terrible incendie obligea le père des Ambrois à se transférer avec sa famille à une maison du bourg supérieur d'Oulx, dans la rue appelée aujourd'hui la rue des Ambrois. La maison que j'ai visitée existe encore, et dans le jardin se trouve une pierre avec les armoiries de la famille. L'évêque, parent de Lacazette, transporté dans la nouvelle maison par les soins du jeune des Ambrois, féru d'histoire régionale et familiale. Avec le décès d'êtres qui lui étaient très chers et l'adolescence de Louis des Ambrois sont marqués par la tristesse et le silence. Mais il a des qualités intellectuelles rares. Au collège d'Oulx, d'abord, il réussit brillamment, puis à l'université de droit de Turin en 1828. Malgré son jeune âge, le ministre de la Marine lui offre un emploi au ministère. Mais à la grande surprise de tout le monde, il refuse, car cette charge ne correspond pas à son caractère de montagnard, ni à sa forme d'intelligence. Par contre, à la procure générale de Turin, donc en tant que magistrat, à 27 ans, on lui confie une mission sur le code civil du royaume. En 1840, il entre en politique. Le 2 octobre 1841, le gouvernement le charge de la préfecture de Nice. Brillante opportunité dans un territoire de plus en plus philo-français. Malgré ses difficultés, son œuvre fut remarquable. Il régule la ville, notamment la promenade des États-Unis. Il viendra la fameuse promenade des Anglais. Il fait endiguer des rivières comme le Var, etc. Il fait un grand travail d'urbanisme. Le roi Charles-Albert s'intéresse à ce progressiste illuminé, porteur d'espoir d'une nouvelle politique, et le nomme, de 1844 à 1847, pendant 3 ans, ministre de l'Intérieur, donc grand signe de confiance de la part du roi d'Italie. Des Ambrois de Névache se révèle alors un administrateur précis, novateur, fiable, rationnel. Pour lui, être efficace et moderne, l'État doit s'occuper d'éducation, de transport. Le ministère de l'Intérieur s'occupait notamment des transports et de l'instruction publique. Pour l'État piémontais, la priorité doit aller à l'expansion des réseaux routiers, afin de unifier le territoire. Le roi propose un Turin-Gênes, une route entre Alexandrie et le lac Majeur. Il écrit à Des Ambrois: je trouve que la lettre que vous adressez aux membres de la Société pour la construction du chemin de fer est parfaitement rédigée. On ne pouvait faire mieux. On voit donc la confiance que lui accordait le roi. Des Ambrois se bat contre les spéculateurs, les gens peu honnêtes, et il défend toujours l'intérêt de l'État, ce qui plaît beaucoup au roi. Ensuite, en présence de Victor Emmanuel, du prince Napoléon, de Cavour et du banquier Lafitte, il entreprend l'ouverture du chantier du tunnel du Fréjus, encore si important aujourd'hui dans les échanges franco-italiens. Le 25 décembre 1870, le tunnel est percé, mais l'inauguration n'aura lieu que le 17 septembre 1871, en présence prestigieuse du grand Ferdinand de Lesseps, qui sera le promoteur du canal de Suez. Un monument sera érigé à Turin en souvenir des 200 ouvriers morts pendant ces travaux. Au XIXe siècle, un problème important est aussi l'instruction publique. Et notre ministre va s'attaquer à construire une éducation populaire. Le roi et son successeur Charles-Félix mènent une politique dure et passéiste. C'est donc difficile pour ce ministre progressiste. C'est aussi l'époque de Joseph Cottolengo, rappelons que sa famille était d'origine de Lubaye, qui fera beaucoup pour une fondation de la Divine Providence afin d'aider notamment Jean Bosco, le curé éducateur des enfants perdus, à l'origine de l'ordre des Salésiens. Charles Albert trouve un allié de grande qualité en son ministre des Ambrois. Le roi a besoin de son aide car il veut réduire l'énorme emprise des jésuites sur l'avenir moral, social et économique de son pays. Des Ambrois et son ami Cesare Alfieri créent des écoles du soir pour les ouvriers de Turin et à Gênes des écoles techniques de mécanique et de chimie. Les enseignements et les professeurs sont des spécialistes de remont. Cet homme, solitaire, travailleur, visionnaire, ne se mariera jamais et n'aura jamais d'enfant. C'est un ardent partisan de l'émancipation de la femme. Il crée des crèches, des écoles maternelles. Grâce à lui, le roi a évolué, il est prêt pour de grandes réformes et des Ambrois et son plus fidèle conseiller. Il met en œuvre en 1847 une série de réformes accueillies avec grande joie par ses sujets sur la liberté de la presse, limitation des pouvoirs de la police, de l'État, création de la Cour de cassation, code de procédure pénale, etc. Donc, des Ambrois de Névache est un grand juriste. Le 17 février 1848, il publie les lettres patentes de Charles-Albert de Savoie, émancipation des Vaudois, et grâce à ces textes, la population vaudoise des Hautes-Vallées retrouve leur liberté, ce qui n'a malheureusement pas eu lieu en France. Et c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui une église vaudoise prospère chez nos amis transalpins. Le 8 février 1848 a été programmé il Statuto Albertino, document par lequel Charles Albert reconnaît au pouvoir absolu pour lui et ses successeurs. La nation devient maîtresse de son destin, une ère nouvelle s'ouvrait pour l'Italie et la maison de Savoie. C'est bien Louis des Ambrois qui a eu la lourde tâche de rédiger le texte du statut. Une des premières conséquences est l'éloignement immédiat des jésuites de ce territoire, qui était plutôt facteur de conservatisme social. Chambéry appartient encore à Charles Albert. Quel meilleur ambassadeur que des Ambrois pour calmer les mouvements révolutionnaires qui agitent les irrédentistes transalpins. Notre chevalier de Névache se présente à Saint-Jean-de-Maurienne alors que les insurgés ont déjà quitté et continue son voyage vers Aiguebelle, nouveau siège du gouvernement. Donc, grande aide au roi, Louis des Ambrois n'est pas un militaire de carrière, mais il sait rétablir l'ordre. Charles Albert essaie de le retenir avec des titres très convoités, des retraites mirifiques, mais des Ambrois refuse. Le roi lui gardera son amitié. Charles Albert va abdiquer en faveur de son fils Victor Emmanuel, qui aura plus de chances dans les guerres successives grâce à l'aide de son ami Napoléon III. Entre-temps, Louis des Ambrois s'occupe à Oulx d'histoire régionale, il a pris sa retraite. Il écrit sur les mystères de Briançonnet, il s'intéresse aux langues modernes et anciennes, au tunnel du Fréjus. Pourtant, il devient sénateur, il est toujours appelé consulté. Son savoir universel juridique épate même ses détracteurs, on l'appelle l'ours des Alpes. Sa santé lui cause quelques problèmes et n'empêche pas de voyager Turin, Venise, Florence, Rome, où il doit s'occuper de la suppression des corporations religieuses. Les ordres hospitaliers, par exemple, ne seront pas touchés. Parmi ses expériences à l'étranger, notons aussi des missions à Paris, ses colloques avec Napoléon III, ses voyages à Zurich, ses rapports respectueux mais toujours froids et distants avec Cavour, qui voit en lui un homme trop lié à la famille des Savoie et pas assez menteur. C'est un plaisir immense pour Louis des Ambrois de Névache de rentrer à Oulx, où son titre de sénateur lui donne une grande notoriété. Il écrit une autobiographie en 1872 sur sa longue carrière politique. Ce livre sera publié à Bologne en 1901 par Victor Audiard, son neveu, à titre posthume. Il avait fait publier en 50 exemplaires une notice d'histoire locale, notice sur Bardonnèche. Selon l'auteur, un de ses livres reste dans beaucoup de familles. Parmi les livres de son immense bibliothèque, on trouve des livres sur la flore alpine. Il s'intéresse aussi aux Vaudois, au procès contre les Vaudois. C'est donc un esprit universel. Il accumule les documents anciens de sa bibliothèque, très intéressante et complète. Selon certains experts, ce patrimoine est maintenant propriété de la ville de Turin. On possède beaucoup de souvenirs. Il va mourir à Rome dans la nuit du 3 au 4 décembre 1874. Aux proches qui voulaient croire en sa guérison, il dira « Non, n'importe quoi, dans un moment c'est fini, je dois seulement m'endormir. » Il repose aujourd'hui à Oulx, sur le parvis de l'église de Santa Maria Assunta, comme il l'a désiré. Une stèle en latin, dans un langage incompréhensible, cache bien son identité. Les mystères de Briançonnet en langue d'oc étaient des pièces de théâtre qu'il a écrit, donc il laisse une œuvre d'histoire locale conséquente. Dans ses mémoires publiées en 1872, Louis des Ambrois de Névache nous a donné l'impression d'être un honnête homme, comme on le disait au XVIIe siècle, c'est-à-dire des connaissances universelles, avec un sens profond de la continuité de l'État.
Merci beaucoup.